Bonjour Miguel.
Bonjour Marianne.
Un bilan 2015 en ce qui a trait aux initiatives en santé internationale, une initiative bien sûr signifiante qu'on admire, qu'on aimerait adopter ici.
Oh que oui.
Et première initiative du côté du Mexique en ce qui a trait à ce désir de freiner la consommation de boissons sucrées. On le sait, les Mexicains sont assez friands de boissons sucrées et ben, ça a plusieurs impacts sur leur santé.
Exact. Alors, on a regardé en fait, surtout cette année, la taxe qui a été imposée sur ces boissons sucrées. La Chambre de base du Congrès mexicain a voulu voter pour qu'il y ait une baisse, que ça soit annulé finalement, mais ça n'a pas passé, une chance. Et ça nous permet encore d'observer. Et qu'est-ce que c'est? C'est un peso par litre de soda, ce qui correspond à environ à peu près une hausse de 10 % du coût d'une boisson sucrée, parce qu'on veut prévenir contre l'épidémie d'obésité et prévaloir contre le diabète.
Oui, qui est assez en taux assez important là, au pays.
En effet, parce qu'en 2006, on observait que depuis 2000, ce serait le premier cas de décès le diabète. Alors, c'est énorme. Et on a vu aussi une augmentation de 40 % de l'obésité chez les enfants entre 5 et 11 ans. Alors, est-ce que les industries étaient favorables à ça? Bien sûr que non.
C'est sûr.
Mais c'est pas tant la taxe elle-même qui les dérange, mais plus la démonisation, tu sais, de mettre le mal sur la boisson sucrée. Mais, alors, on a tenté de remettre, oui, mais si vous faites un équilibre ou que vous faites de l'exercice, bien, ça il n'y aura pas de problème.
Que la gestion du poids, au fond, ça venait de l'activité physique seulement et que de boire des boissons sucrées n'avait pas d'impact. Puis il fallait comme juste valoriser de saines habitudes de vie.
Ce qui est faux, puisque c'est le mix des deux entre l'activité physique et, bien sûr, l'alimentation. Et bon, une alimentation qui, avec une consommation excessive de sucre, bien, on le sait, peut être responsable, justement, on parlait de diabète. Et est-ce que la taxe est efficace, finalement?
Oui.
Alors là, c'est encore la question qu'on se pose parce qu'on ne peut pas vraiment le savoir. On a vu que dans certaines villes, on a tenté de le faire. Je donne des exemples en Finlande, en France, en Hongrie, mais ça n'a jamais été le cas. On a pris cette taxe-là pour la mettre sur d'autres projets, mais là, ici, c'est vraiment dans un but de voir un impact sur le physique et ce taux d'obésité chez les gens. Mm-hmm. Alors, peut-être que la seule chose qu'on peut remarquer qui donne l'espoir, c'est qu'il y a une baisse de 6 % sur les boissons sucrées et une hausse de 4 % pour les bouteilles d'eau.
Mm-hmm. Et en même temps, les industries de la boisson sucrée, boisson gazeuse, disaient « Ah, vous allez pénaliser les gens plus pauvres », qui était quand même, je trouve, un argument plus ou moins intéressant de leur part, là.
Mais c'est vrai que souvent, c'est une des alternatives, surtout si on regarde du côté du Mexique, que peut-être les boissons sucrées sont une des premières boissons que les gens vont boire chez les plus pauvres. Mais ça soit pas juste au Mexique, on pourrait prendre ici des cas. Mais peut-être que cette taxe-là peut être mise de l'avant pour favoriser une saine alimentation, une augmentation de fruits et légumes. Et ça m'amène à parler de Boston. Mm-hmm. Et Boston, qui est une pionnière en agriculture urbaine, et c'est depuis 2010, et regarde, juste de dire le nombre depuis 2010, question, c'est 200 jardins communautaires, 120 jardins scolaires, ça c'est génial, 80 vergers et 30 marchés fermiers. Alors on raconte ça que c'est vraiment un succès pour la ville de Boston, mais là ce qui est intéressant, c'est qu'ils veulent commercialiser donc cette industrie alimentaire agricole. Et c'est vraiment le maire qui a mis de l'avant avec des entreprises qui ont vu ces terrains vacants et qui ont décidé de mettre de l'avant pour une agriculture urbaine. Et qu'est-ce qu'on veut surtout? Bien, c'est surtout, on permet des fermes sur les toits, des fermes intérieures, la culture hydroponique, entre autres, déjà. Mais donc, ces terrains-là vont servir en plus pour permettre une accessibilité et offrir aux citoyens des produits frais, sains, locaux et surtout abordables.
Oui, de très, très belles initiatives. On y investit 500 000 par année depuis des années, là, ce qui est énorme quand même. Et on voit, les résultats sont probants là, avec ces jardins communautaires, scolaires, les vergers et les marchés fermiers.
Et moi, je veux juste dire une chose. Boston est à 5 heures d'autobus, mettons, de Montréal. Ouais. On n'y va pas souvent, puis ça donne le goût d'aller voir. Puis on devrait, parce que justement, ici à Montréal ou juste en Montérégie, on a de moins en moins de terrains. On prend moins le temps de... Il y a des terrains en Montérégie qui vont être enlevés par le gouvernement pour remis à des entreprises. Alors, je trouve ça aberrant de voir que, justement, on ne prend pas aussi à cœur, justement, nos produits agricoles locaux et qui donneraient aussi une économie locale.
Oui. Maintenant, un sujet qui vous intéresse beaucoup, Miguel, tout ce qui a trait à la technologie en matière de santé. Du côté du MIT, on a fait un bilan 2015.
Encore là, hein, on est dans les bilans. Le Massachusetts Institute of Technology a fait leur top 10 et j'en ai retenu quelques-uns. Et entre autres, celui-ci, la biopsie liquide, et ce qui permettrait de découvrir les cellules cancéreuses. C'est comme un scan de l'ADN. Et c'est un chercheur, M. Dennis Low, un chercheur de la Chinese University of Hong Kong, qui, lui, avait déjà été un précurseur en 1997 pour, à partir de l'ADN d'un fœtus qui se mêle avec le sang de la mère pour permettre de découvrir...
la trisomie 21.
Exactement, le syndrome de Down. Et là, il se dit être en mesure de pouvoir, avec la biopsie liquide, de détecter avant même que le patient le save. Peut-être
Même avant qu'il y ait eu les premiers symptômes, c'est incroyable, ça.
Mais là, on comprend aussi qu'il y a plusieurs gens qui investissent dans sa recherche et c'est fabuleux. Et on essaie d'avoir justement un séquenceur, donc la taille d'un cellulaire, donc une machine qui permettrait de pouvoir, un tout petit portable, permettre justement de prévoir, en fait, les cancers.
Et tout type de cancer. Il reste une minute, Miguel, donc on aura le temps de parler de l'Internet, de l'ADN. Qu'est-ce que ça signifie, ça?
Eh bien, c'est qu'on voudrait permettre aux généticiens de l'ADN de permettre d'avoir accès dans une banque Internet tous les ADN de plus d'humains possible. Et c'est pour comparer et puis permettre justement de trouver peut-être des erreurs dans les combinaisons. Et quand on a face à des maladies rares, les chercheurs sont un peu mal pris. Alors, ils pourraient voir à travers la planète avec d'autres chercheurs, donc dans cette banque-là, les ADN pour des maladies plus rares, permettre justement des avancées. Mais c'est sûr que au niveau des barrières sociologiques et juridiques, c'est pas facile. Il y a quand même la protection aussi.
Un côté éthique dans tout ça.
Exactement. Mais on veut trouver des solutions et permettre le plus possible à des gens de guérir des maladies génétiques rares.
Miguel Doucet, merci pour ce bye-bye de l'année en matière de santé et science un petit peu partout dans le monde. Vous nous faites toujours voyager. Un plaisir, Miguel.
Mais merci, Marianne.
Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde, Christiane Campagnat à la recherche, Marianne Paquette au micro. On se donne rendez-vous demain, 14h. Portez-vous bien. Bye-bye.